Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon.
Quand l'Église s'effondre, c'est l'auteur de cet ouvrage que je reçois toute la semaine. C'est un frère dominicain, frère Jacques Benoît Rocher. Bonjour frère.
Bonjour.
Merci de votre visite dans cette émission. Nous enregistrons dans la cité Marielle puisque vous êtes de passage pour une conférence à Lourdes. Et nous ne sommes pas très loin de la grotte Massabielle. Donc vous avez évoqué, et puis à la lecture aussi des pages, la figure de Saint Dominique. Saint Dominique, vous rappeliez hier qu'il pleurait pour la conversion des pécheurs. Donc il reconnaissait aussi le péché, il savait le nommer quand il fallait le nommer. Est-ce qu'on pleure assez aujourd'hui pour les pécheurs, pour ceux, nous-mêmes aussi, qui nous égarons parfois sur des chemins un peu désordonnés, dans une désobéissance aussi à l'Église et peut-être au Christ. Qu'en pensez-vous ?
Alors, écoutez,
expliquez-nous tout ça.
Écoutez, je crois que, paradoxalement, non, je crois qu'on ne pleure pas assez. Et c'est encore une fois étonnant, c'est vrai, de voir que Saint Dominique pleurait. C'était peut-être la manière de s'exprimer au Moyen-Âge aussi dans la prière, mais un de ses premiers enfants, dans l'ordre des prêcheurs, Saint Thomas d'Aquin, le grand théologien dominicain, il a cette très belle phrase. Il dit que pleurer, en substance, ça nettoie les yeux. Pleurer, ça permet de voir mieux les réalités qui sont autour de nous, et notamment les réalités spirituelles. Et je crois que c'est très vrai parce que pleurer nous fait réaliser finalement qu'on aime. On ne pleure pas normalement sur quelque chose vis-à-vis duquel on est indifférent. Et parfois on se surprend soi-même à pleurer sur quelqu'un dont on apprend le décès par exemple. Et puis on se rend compte à ce moment-là, au fond, combien est-ce qu'on était attaché à cette personne. Mais je pense, toute proportion gardée, que c'est un peu la même chose que ce qu'ont vécu beaucoup de chrétiens. Par rapport à toutes ces crises qui ont traversé l'Église, moi souvent j'en recevais des personnes qui me disaient « je suis désorienté, je suis profondément blessé par ce que vivait l'Église ». Certaines pleuraient physiquement, mais d'autres, voilà, on voyait qu'elles avaient le cœur blessé. Et en fait, la première chose que je me suis dit, c'est au fond, vous aimez cette Église. Parce que si vous étiez indifférent ou indifférente à ce qu'elle vivait, vous diriez, c'est une crise de plus comme on peut en connaître dans la société. Si vous êtes tellement affecté, ça veut dire que vous l'aimez, et ça c'est beau. Donc partons de là. Et je crois que les larmes, elles nous désignent ça. Si on pleure sur notre péché, ça veut dire qu'on pleure aussi sur le fait qu'on a offensé Dieu. Si on pleure sur l'état de l'Église, ça veut dire qu'on l'aime, cette Église. Alors oui, pleurons de temps en temps.
Alors vous parlez aussi de ces pleurs aussi de Saint Dominique, de ces larmes. Alors je vais appeler aussi les auditeurs peut-être à entrer dans ces larmes. Mais au fond... Permettez-moi, frère Jacques Benoît, ces larmes en vue aussi du salut des âmes. C'est un jeu de mots, parce qu'il est question, au fond, du salut et d'une éternité. Rien n'est gagné. Vous nommez le mal, vous nommez le péché, mais si nous restons dans des actes mauvais et si nous persistons dans le péché, où sera notre salut ?
Je crois que parler du péché, je sais que souvent il y a beaucoup de gens qui disent « oh là là, c'est culpabilisateur de parler du péché ». Alors ça peut l'être et ça a pu l'être dans certains discours. Mais je crois qu'au contraire, c'est rappeler d'abord une chose fondamentale, c'est que nous sommes libres et que Dieu nous a créés libres. Et qu'il nous a même créés libres au point que cette liberté peut être utilisée pour rompre notre relation avec lui. Rompre volontairement notre relation avec lui. Et au fond, dire à l'homme qu'il est pécheur, c'est quelque part une bonne nouvelle. C'est lui dire, tu peux retrouver, là où tu vis, les zones de ta vie où tu es libre. Alors, on est tous plus ou moins contraints par toute une série de choses. Ça, c'est pas faux. Mais tous, on a des petites zones de liberté. Et c'est ça qu'on appellera le péché ou au contraire la sainteté. C'est pas rêver qu'on va devenir complètement autre ou qu'on va se libérer de tout conditionnement qui peuvent nous marquer. Mais c'est se dire, au fond, on a tous des petites zones de liberté dans notre vie qu'il faut savoir saisir, qu'il faut avoir le courage de saisir. Et la sainteté, c'est saisir cette liberté. Le péché, à l'inverse, c'est refuser de saisir cette liberté pour nous laisser entraîner dans tout ce qui est mal.
Quand on parle du mal, quand on parle du péché, c'est au fond se séparer du grand amour, de l'amour de Dieu. Donc c'est se priver de quelque chose qui est bon.
C'est se priver de cette présence de Dieu qui est bonne. Et puis c'est surtout se priver de cette dignité profonde que Dieu a créée en nous. Je crois que Dieu nous rappelle en permanence combien est-ce que nous sommes dignes comme êtres humains. combien nous sommes beaux et belles devant lui, hein, qui que nous soyons. Et je crois que le péché, c'est tout simplement salir cette dignité, salir cette beauté que Dieu veut pour nous.
Au fond, vous parlez au fond, quand on parle de péché, quand on parle aussi du bon Dieu qui laisse cette liberté à toutes les créatures, il veut que l'homme soit sauvé et qu'il soit digne. Et vous rappelez aussi cette extraordinaire beauté. En fait, l'homme est fait pour le beau, il est fait pour le bien.
Exactement, l'homme est fait pour le beau et le bien.
Pourquoi se détourne-t-il du beau et du bien ?
Parce qu'il se laisse séduire. Il se laisse séduire par les beautés artificielles, par les biens de substitution, on va dire. Mais même dans la manière dont il se détourne, je crois qu'il cherche toujours le bonheur, d'une façon ou d'une autre. Et là, je crois qu'il y a quelque chose aussi à creuser. C'est-à-dire se dire, ben voilà, quand on pêche, au fond, on cherche le bonheur, mais d'une mauvaise manière. Et au fond, la sainteté, c'est retrouver le bon chemin, mais continuer cette recherche du bonheur, mais du bonheur qui ne finit pas, pas du bonheur à bas prix.
Donc Saint Dominique, fondateur des Dominicains, grand prédicateur, est un exemple, je dirais, presque parfait de sainteté.
Ah, tout à fait, dans le sens justement où il cherchait le bien. Il ne cherchait pas à se dire, est-ce que je suis conforme à une loi ou pas, hein. Mais il se disait, oui, peut-être, il y a des lois, il y a des règles qui existent, mais ces règles et ces lois, elles sont là pour me conduire sur ce chemin du bonheur qui est le chemin
Alors,
de l'Évangile.
On parle beaucoup de la miséricorde, on en parle, je dirais, tout le temps de cette miséricorde. Où s'exerce-t-elle, cette véritable miséricorde, dans le cœur des hommes?
Je le dis un peu dans le livre. Parfois, je trouve qu'on en parle peut-être un tout petit peu trop. Parce que il ne faut pas non plus que cette miséricorde soit une manière de se déresponsabiliser, encore une fois. Voilà, je crois que Dieu est miséricorde, absolument, qu'il est amour absolument, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais effectivement, parfois, il nous corrige aussi en vue de cette miséricorde. C'est-à-dire, il nous dit encore une fois, ben voilà, telle direction, elle n'est pas la bonne. Et je te le dis, elle n'est pas la bonne. Et tu ne pourras pas être heureux si tu la prends. Et il faut le dire parfois. Et ça, ce n'est pas être contraire à la miséricorde. C'est au contraire dire à la personne, ben, tu peux choisir un autre chemin et choisis-le si tu veux être heureux.
Alors là, vous associez miséricorde avec justice. C'est là où s'exerce parfaitement la miséricorde avec la justice.
Il ne faudrait pas le voir comme un équilibre, hein, je crois, en disant il faut 50-50. Hein. Mais il faut se dire, c'est saint Augustin, hein, le grand docteur de l'Église qui dit ça, qu'au fond, la justice est un instrument de la miséricorde. C'est-à-dire que pour pouvoir accéder pleinement à l'amour de Dieu, eh ben, il faut de temps en temps avoir des règles, avoir des lois, avoir même des autorités qui vous disent « là, vous ne suivez pas le bon chemin et vous allez être condamné pour ce que vous avez fait ». Mais c'est pour grandir dans la prise de conscience du bon chemin qu'on doit atteindre.
Oui, une autorité d'amour en vue de faire grandir.
Oui, ou même une autorité qui condamne, autorité publique, hein, qui va condamner quelqu'un qui aurait vraiment commis quelque chose contre les lois civiles. Au fond, elle fait œuvre de justice et donc elle permet peut-être aussi à la personne de se convertir.
La bonne autorité avec la bonne justice et non pas l'autorité de pouvoir et l'autorité
Exactement.
D'abus que
Exactement.
Nous avons connu et oui. que parfois nous connaissons encore aujourd'hui dans ces abus de pouvoir spirituels, par
oui,
exemple,
oui, tout
dans
à fait.
Oui. Alors c'est tout un programme là que vous nous rappelez, que vous nous proposez, frère Jacques Benoît.
Je ne sais pas si c'est tout un programme, en tout cas c'est à la fois le programme de l'Évangile et puis quelque chose qu'on trouve dans la longue tradition de l'Église, au bon sens du terme. C'est-à-dire, je trouve qu'on a aussi cette chance, quand on est chrétien, de se dire on peut s'appuyer quand même sur une réflexion, sur une vie de personnes qui ont éprouvé finalement cette grandeur de la tradition chrétienne, de la pensée chrétienne. Ce n'est pas pour ressortir des vieilleries du placard, mais c'est au contraire pour se dire ben, on a une tradition qui est éprouvée, une tradition de vie qui est éprouvée. Écoutons quand même aussi les conseils de ceux qui ont vécu avant nous sans trop vite nous dire, nous qui sommes des hommes et des femmes technologiques, développés, lettrés, etc., on est quand même beaucoup plus intelligents que tous ces primitifs qui ont vécu avant nous. J'en serais pas tout à fait sûr.
Frère Jacques Benoît Rocher, je vous propose de vous retrouver dès demain pour la suite de cette série des clés pour vivre. Et puis j'invite les auditeurs à devenir tout simplement lecteurs de ce petit ouvrage qui se lit très vite, qui donne aussi des clés pour mesurer peut-être et traverser avec justesse les épreuves que l'Église peut traverser aujourd'hui, qu'elle traversera demain. Mais l'Église est toujours debout. Ce livre est paru aux éditions du Cerf. Quand l'Église s'effondre, à demain, même lieu, même heure.
À demain.